Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werf. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast, épisode 22. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Alors ça va, t'es chaud aujourd'hui?
Bah écoute, oui.
J'ai l'impression que je commence chaque épisode par cette question, mais faut savoir que là, on a quand même une programmation assez alléchante, puisqu'on va parler aujourd'hui, entre autres...
Et éclectique, si je puis me permettre.
Hein, tout là, à fait. On va parler entre autres de Avengers Infinity War, donc c'est le troisième film Avengers, c'est pas du tout le troisième film Marvel, hein, je tiens à vous rassurer, mais c'est le troisième gros mastodonte de l'univers Marvel, dont on va discuter en cette première partie d'épisode. On va en discuter à mon avis un bon petit temps, parce qu'il y a de quoi dire,
ouais.
Sans spoiler, hein, le but n'est pas non plus de pas vous donner envie d'aller voir le film ou autre, ou quoi. On va vous en parler sans vous donner les spoils, ça va être difficile, mais vous donner quelques indices sur ce film... dantesque. Oui. Deuxième film de la semaine, c'est Comme des garçons, une comédie française sur la première équipe de football féminine.
Et française.
Française, bien sûr, excusez-moi. Française.
Il y en avait déjà...
Féminine française, tout à fait, oui.
Oui, non, mais je veux dire, oui, la première équipe féminine française, parce qu'effectivement, il y avait déjà une équipe, enfin, même d'autres équipes dans d'autres championnats et d'autres pays.
Tout à fait.
Mais on sait bien que la France est un pays qui a un peu plus de retard sur les autres
mais
quant aux sujets sociaux.
Ne l'écoutez pas, un ami français. On vous aime. Ouais.
Ah, t'es comme ça, toi?
J'ai comme ça. Bravo. Non, pas Bravo. Du tout. Foxtrot, troisième film dont nous allons passer cette semaine. Et c'est tout, parce que Avengers oblige, forcément, le line-up est très serré. Cette semaine, je crois que tous les distributeurs ont compris que ça ne servait à rien d'envoyer un communiqué de presse ou quoi que ce soit cette semaine. D'ailleurs, la preuve... c'est qu'en cherchant des informations pour cet épisode, les fameuses news qu'on met entre chaque film, il n'y a pas grand-chose qui se passe niveau cinéma français ou même près de chez nous, puisque je crois que c'est le silence radio, ils savent très bien qu'ils vont se bouffer.
Bah oui, les mois de mars-avril sont vraiment des mois de vache maigre en cinéma. Et ça a toujours été comme ça. Maintenant, ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans le milieu, et chaque année, on fait le même constat. Mars-avril, c'est un peu mort. Quelques films d'auteur. Au niveau blockbuster, maintenant, on commence à en avoir un gros par mois.
Oui.
Pendant toute l'année, ce qui n'était pas le cas avant, parce que auparavant, pour les distribs, la stratégie, c'était l'été, quoi.
Et ce qui est marrant, parce qu'aux États-Unis, le trou, c'est janvier-février, parce qu'il y a eu tous les films d'Oscar, etc., qui sont sortis en décembre.
Ouais.
Et ben, nous,
c'est
en
pas toujours le cas.
Parce que...
souvent, il y a souvent des sorties techniques au mois de décembre. Où ils sortent dans une ou deux salles histoire de faire en sorte que les films soient éligibles aux Oscars, justement.
Mmh.
Et puis ils sortent réellement mi-janvier, souvent. Mais oui, c'est vrai que chez eux, c'est plutôt quand même février, c'est le mois faible.
Et nous, c'est décalé un petit peu.
Ouais.
Mais ne vous inquiétez pas, on a plein de films qui arrivent. On voit de plus en plus de films ces derniers temps parce qu'on reprend un peu le rythme, hein, vu que le bif est fini, on s'est rappé tout ça. Donc on va voir des films dont on va pouvoir vous en parler dans les prochaines semaines. Il y a du lourd qui arrive, notamment le prochain Kev Adams, le prochain Romain Duris, voilà, plein de choses.
Je n'ai pas vu le prochain Kev Adams et je ne le verrai pas.
Tu ne le verras pas
sorti. Non.
Love Addict. Ça tombe bien qu'on parle de Love Addict puisque le premier point, c'est le point box-office. On a le box-office pour la Belgique, mais avec des chiffres de nouveau américains. Pauvre bof, hein, on va parcourir ça ensemble. Et on a aussi le box-office en France, et je parlais de Kev Adams parce que son film est sorti maintenant en France la semaine passée, et c'est sans surprise le premier film, en tout cas le jour de la sortie en France, avec 80 000 entrées.
Près ouais. 80 000 entrées. Que tu parles de Kev Adams, il vient faire la promo de Love Addict justement en Belgique ce week-end. Et
c'est maintenant que tu me dis ça.
Oui, bah écoute, on s'en fout.
Hein. Comment ça?
Mais il donne des consignes aux journalistes pour les interviews.
Il donne des consignes?
Oui, c'est-à-dire avec des sujets à ne pas aborder en interview.
Oula!
Ouais.
Est-ce que tu peux nous donner les sujets à ne pas aborder avec Kev Adams?
Alors, le premier, c'est son ex, qui était quoi, Miss Univers ou je sais pas
il
quoi.
Il est sorti avec Miss Univers?
Ouais. Ouais, il s'en mérite pas le coco. Il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui! Son fameux sketch avec Gad Elmaleh sur les Chinois.
Ah oui,
ah bah ouais, évidemment.
Hashtag tout est possible.
Et apparemment, on peut pas faire de lien entre Love Addict et tout ce qui est MeToo, affaire Weinstein et tout ça. Moi, j'ai pas vu le film, donc je peux pas te dire exactement de quoi ça parle, tu vois. Mais voilà, visiblement, Il fait pas bon d'être Kev Adams en ce moment.
Non. Non, Kev Adams, c'est clair que... bon, ça va, il est sorti avec Miss Univers, je crois pas qu'il y ait un rapport avec MeToo.
Le gars est pas trop à plaindre, quoi, mais voilà.
Non, clairement.
Moi, cela dit, ça arrive... Enfin, moi, ça m'est jamais vraiment arrivé d'avoir une consigne quant à des questions à ne pas poser à des gens, mais je sais que ça arrive avec certains. Bah, avec Woody Allen, ça arrive à chaque fois, quoi. Hein. Woody Allen, tu commences pas à lui parler de ses problèmes.
Non, clairement, clairement.
De ses petites affaires... Plus que douteuse.
Il a quand même deux, trois trucs à se reprocher.
Oui.
Donc on part du box-office. On est déjà en train de s'égarer, ça commence bien. On parle du box-office pour la Belgique. Le premier film en Belgique, c'était Peter Rabbit, ou Pierre Lapin. Film d'animation sans grande surprise. Hein. Ça fait 3 semaines qu'il est numéro 1, et avec 1,7 million d'euros chez nous. Deuxième film, on a Sherlock Gnomes. Donc ça, c'est une nouvelle entrée dans le box-office belge. Avec 180 000 euros, donc c'est une entrée assez discrète, mais efficace pour un film de ce genre-là. Personnellement, Sherlock Gnome, c'est pas comme si on avait beaucoup entendu parler de ce film, donc non, c'est non, pas contre mal.
On sent que c'était les vacances de Pâques. Hein.
Ah oui, oui, bien sûr. Black Panther, qui est toujours troisième, alors ça c'est là qu'on commence à se dire, y a des petits problèmes avec ce box-office, puisque c'est sa 9e semaine en Belgique, il a bientôt dépassé les 3 millions d'euros. Et ça tombe bien puisque Avengers sort cette semaine, donc du coup il va pouvoir enfin dégager du top 5. Lady Bird, ça c'était une nouvelle entrée, hein, c'est sa 2e semaine seulement, qui est assez discret mais qui est quand même dans le top 5 puisqu'il y a 50 000 euros en une semaine, en 2 semaines, non pardon, 7 semaines, mais en 2 semaines il a fait 140 000 euros, je vais m'en sortir. Et 5e film, c'est Jumanji, Welcome to the Jungle, le carton total en Belgique puisqu'il est, elle a dépassé pardon, les 3,5 millions d'euros. Au total de 11 semaines d'exploitation.
Putain, je vais vraiment devoir le rattraper, ce truc, s'il passe
donc,
encore.
Donc, ce truc...
Tu crois qu'il passe encore à Bruxelles ?
Peut-être pas à Bruxelles, mais en tout cas, peut-être dans les petits cinémas ou des trucs comme ça, il y a moyen. Donc voilà, ça, c'est pour le top en Belgique. Et en France, je venais de le dire, Love Addict, qui a fait la plus grosse entrée du mercredi passé, largué en 2e place avec 40 000 entrées le mercredi de la sortie, Place Publique en 3e place avec 33 000 entrées, donc c'est pas un mauvais score, mais c'est vrai qu'il y avait un gros line-up niveau comédie cette semaine en France, enfin la semaine passée.
Pourtant là, Place Publique, c'est quand même le retour d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, donc...
Ouais, mais je crois que les gens ont eu du mal à...
Ça a mieux fonctionner.
En tout cas, en ayant vu les bandes-annonces, etc., c'était assez difficile de comprendre de quoi ça parle, en fait.
Mm-hmm.
Donc t'es là un peu ok, espèce de star déchu, mais bon, allez, c'était compliqué de comprendre de quoi ça parlait, donc c'est possible que les gens soient moins identifiés à ça que, par exemple, au sens de la fête, quoi. Quatrième film, c'est Escobar, avec quand même 26 000 entrées, pardon. Et cinquième film, ça c'est très décevant pour une nouvelle sortie, Game Night, qui la comédie américaine qui a fait un bon petit score aux États-Unis, qui là, par contre, fait 9 000 entrées en France. Ça manque un peu de star power, cette comédie-là, pour le public français, tu penses pas ?
Je sais pas, je trouve que le casting est sympa. Alors, il y a, Jason Bateman, Rachel McAdams, je sais plus trop qui d'autre. Mais non, c'est quand même un bon casting. Je crois qu'il est peut-être pas sorti au bon moment et peut-être mal marketé. Voilà.
Oui.
Et puis bon, après, ça dépend aussi des autres sorties. Hein, donc,
tout à fait.
Ce n'est pas une science exacte.
Non, malheureusement. Alors, premier film de la semaine.
Ah, enfin.
Et pas des moindres. On passe directement dans le vif du sujet, comme on dit. Avengers Infinity War, on a été le voir ce matin du coup. On peut vous en parler à partir de mercredi, date de publication de cet épisode. Qu'en as-tu pensé ? Quel est surtout, d'abord, peut-être avant de commencer à rentrer dedans, ton rapport par rapport au film Marvel et à l'univers Marvel et à tout ce qui en suit ?
Je suis fan.
Tu es fan ?
Ouais, j'aime beaucoup les films Marvel, même si la grosse critique qu'on peut leur faire et que je rejoins totalement, c'est que ce sont des produits complètement aseptisés qui se ressemblent tous les uns par rapport aux autres et qui n'ont quasiment aucune originalité. Il y a un schéma type qu'ils appliquent à peu près à tous les films Marvel, et voilà. Alors le truc, c'est que dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Il y en a qui sont plus ratés que d'autres, mais si ce n'est peut-être de max 3, il n'y a aucun gros ratage complet.
Non, en effet.
Dans les gros ratages, pour moi, il y a quand même le premier Captain America... le deuxième Thor est moins bon, j'en conviens aisément, même si moi j'aime assez bien la trilogie de Thor, donc voilà. Mais effectivement, le deuxième est quand même très en dessous. Et voilà, y a... le reste est quand même de bonne facture et on prend beaucoup de plaisir, etc. etc. Notamment grâce à l'humour. Et c'est en ça que... Enfin voilà, donc on a une formule qui fonctionne, qui révolutionne... qui ne révolutionne rien, pardon. Je vais y arriver. Enfin, qui a révolutionné quelque chose, parce qu'après, tous les studios ont essayé de suivre avec ce truc d'univers partagé.
Oui.
Globalement, ils se sont tous cassés les dents. Mais voilà. Mais les films en eux-mêmes ne révolutionnent rien.
Non.
Et c'est là où DC aurait pu faire fort, c'est avec ces 10 années de retard sur Marvel, ils auraient pu faire quelque chose de... Enfin, faire la même chose, mais en corrigeant les erreurs de Marvel, c'est-à-dire faire quelque chose de plus sombre, plus sérieux. Et je pense que c'est ce que Zack Snyder voulait faire à la base, mais vu que le public est quand même fort réactif à l'humour Marvel, bah, ils se sont dit, on va quand même peut-être ajouter de l'humour. Et donc au final, DC, ils ont fait la même chose, mais en moins bien. Parenthèse refermée. Mais c'est pour qu'on comprenne bien un peu les différents modèles. Donc Marvel, non, j'aime beaucoup. Même si ça fait quand même plusieurs films maintenant où on se dit bon voilà c'est le nouveau Marvel quoi. On passe un bon moment mais sans plus.
Bah, en fait c'est
et
ça.
Donc le... Avengers ouais. Là où on arrive avec le gros bazar avec les 70 acteurs, on arrivait à un point un peu tiens qu'est-ce qui va se passer.
Oui, mais non, je pense que le gros point fort du Marvel Universe, c'est justement ça, c'est cette connexion entre les différents films. Personnellement, je ne suis pas un fan des films solo de Marvel, donc c'est-à-dire tous les films séparés, hein, les Captain America, les Iron Man, etc., c'est pas ma tasse de thé. Mais c'est vrai que je dois avouer que quand on voit tous ces univers qui clashent et qui rentrent en commun dans un produit comme Avengers... Ça fait plaisir, quoi. Il y a rien à faire. Ça reste un plaisir de cinéma de voir comme ça des acteurs déjà de talent et surtout des acteurs d'aussi grande envergure avec leurs personnages, avec leur développement qui se croisent et qui interagissent ensemble pour la première fois pour certains. Ça reste quand même quelque chose d'assez magique à voir et c'est pour ça que ça a toute son importance. Par contre, oui, comme tu dis, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand on voit... la structure du film, l'approche, même le look, tout se ressemble très fort. Il y a peu d'originalité dans le traitement,
ouais.
Mais c'est diablement efficace et on s'amuse quoi, de A à Z. Surtout, je le disais dans ce film-ci, qui est un film somme, puisque c'est contrairement à Avengers 2, donc avec Ultron, là on sent vraiment qu'il y a vraiment un payoff par rapport au rassemblement de tout le monde. Plus fort que dans Avengers 2, je trouve. Avengers 1 avait ce côté, waouh, c'est la première fois qu'on va voir des univers partagés dans un film. C'est assez spécial, go. Avengers 2, il y avait un peu moins ce côté surprise. Et là, dans celui-ci, on a vraiment l'impression que ça y est, quoi. Il y a vraiment un truc qui a été construit avec les pierres, hein, pour ceux qui connaissent.
Mais je ne sais pas si on est déjà dans le payoff, je n'irai pas jusque-là.
Presque.
Mais c'est clair qu'il y a déjà plus de cohésion, de cohérence. Le groupe fonctionne beaucoup plus, même s'il est, il est séparé. Hein, parce que alors pour ceux qui connaissent quand même un peu l'histoire, le groupe de Captain America d'un côté et d'Iron Man de l'autre ne se sont pas retrouvés. Hein, ils n'ont pas encore fait leur barbecue de retrouvailles. Ouais. Donc il y a toujours une cassure dans les Avengers. Enfin, les Avengers n'existent plus dans l'absolu.
Oui.
Enfin, le groupe en lui-même n'existe plus. Mais malgré tout, les personnages existent, tous. Et ça, c'était une des grosses craintes que j'avais avant de voir le film. C'est que, bon, déjà, Avengers 2, ça fonctionnait pas très bien. Ultron était quand même était sympa. J'aimais bien James Spader, le fait qu'il fasse le personnage et la voix. C'était assez bien, mais... Avengers 2 était assez raté, on va pas se mentir. Et le souci, et c'était encore pire dans Captain America 3 Civil War, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages et ils savent pas quoi en faire. Et donc, ma crainte était d'autant plus amplifiée par rapport à Avengers 3, vu qu'il y a encore plus de personnages. Doctor Strange... Bon, Ant-Man n'est pas présent dans celui-ci, mais il est toujours là. Il y a Black Panther, il y a Spider-Man, enfin voilà, il y a des nouveaux personnages qu'on n'a pas encore vus dans des films Avengers qui sont là. Et donc, qu'est-ce qu'ils allaient en faire de tous ces personnages ? Ça, c'était la grosse question. Et ça aurait pu plomber complètement le film, Or, ce n'est pas le cas. C'est même une des grandes réussites. C'est qu'ils ont pu donner assez de temps à tout le monde.
Oui, c'est vrai.
En même temps, le film fait 2h35. Mais,
générique compris.
Générique compris. Mais chaque personnage existe. Ils ont... Il n'y a pas énormément de scènes dans le film au final, mais elles sont assez longues. Et chaque personnage a le temps d'exister, a le temps d'être, d'être présenté, d'être un peu développé. Bon, alors, développé, c'est un bien grand mot. Ils ne sont pas tous développés parce qu'on les connaît quand même beaucoup. Donc, c'est difficile d'aller, d'aller faire quelque chose de complètement neuf par rapport à tout ça. Mais voilà, ces personnages sont là. Ils ont du temps de présence à l'écran. Mmh. Et ils portent le film, vraiment. Et petite précision par rapport aux personnages encore... c'est que le héros du film, c'est Thanos.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est lui, en fait, qui rassemble tout le monde par sa performance, par sa présence et par son aspect menaçant. C'est vrai qu'il est, c'est lui, en fait, qui est dans chaque scène par rapport... comment expliquer ça, en fait ? Donc, les héros, comme tu dis, sont dispersés sur Terre, ailleurs ou autre. Et Thanos est le seul, en fait, qui va rencontrer tous ces héros au fil du film.
On fait quand même monter la sauce avec Thanos depuis Avengers 1, en fait. Hein, on sait depuis Avengers 1 que c'est lui le grand méchant de l'univers Marvel, et donc c'est la première fois où vraiment Thanos a un grand rôle à jouer. Donc c'était assez... on attendait ça avec beaucoup d'impatience.
Et il le joue bien parce qu'en fait c'est lui le fil conducteur entre tous les personnages du film, et c'est via lui en fait que nous, en tant que spectateurs, on peut aller voir tout ce qui se passe à gauche à droite, puisque il intervient presque à chaque fois dans les séquences où on voit nos héros. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas juste Tony Stark, par exemple, qui se balade à gauche à droite et qui fait un petit clin d'œil à tout le monde, et puis c'était cool, et puis après on se bat, quoi, tu vois. Il y a vraiment une construction, il y a une histoire qui se développe en suivant Thanos, et c'est la plus grosse surprise du film pour moi, c'était ça. Je m'attendais à avoir le Robert Downey Jr. Show ou un truc comme ça, et finalement c'était plutôt le Thanos Show, avec tous les guest stars, entre guillemets, qui arrivaient dedans, et qui, comme tu le disais, ne sont pas juste des clins d'œil, quoi. À chaque fois, il y a au moins quelques répliques, quelques... petite blague ou deux, enfin, le personnage existe, quoi. C'est pas juste ah salut, t'étais là toi.
Ouais, et c'est comme ça pour tous, hein. Même les personnages secondaires des Gardiens de la Galaxie et autres, il y en a plusieurs qui sont quand même vraiment beaucoup là. Il y en a qu'on voit un peu moins, c'est normal, on peut pas tous les montrer non plus, mais globalement, malgré le grand nombre de personnages, ils sont quand même fort présents. Et Thanos, ce qui est bien, c'est que le gars, il a de la prestance, quoi. Alors, ils ont un peu modifié le personnage physiquement par rapport aux versions qu'on a déjà vues dans les précédents films. Mais le gars, il a de la gueule.
Oui, vraiment.
À l'écran, même si c'est beaucoup numérique, il a vraiment de la prestance.
C'est que du numérique, je pense.
Ouais, bon, il y a de la performance avec. Mais, mais oui, c'est quasiment que du numérique. Et non, c'est un bon méchant. C'est le meilleur méchant du MCU. Du Marvel Cinematic Universe depuis le début, ça c'est clair et net. Hein. Enfin, je trouve. Le soldat de l'hiver est un bon méchant dans Captain America 2. Maintenant, c'est un gentil. Le crâne rouge est un plutôt bon méchant dans Captain America 1. Après les autres, globalement, on a oublié tous les mecs.
Il y avait Loki à chaque fois, quoi. Parce
qu'il Loki, fallait... c'est vrai que jusqu'ici, c'est Loki le méchant.
Ouais, c'est ça.
Mais on savait qu'un jour, il allait être dépassé par Thanos, parce que ça a toujours été ce vers quoi on se dirigeait. Mais oui, non, c'est vrai que Loki était clairement le méchant. Et il y en avait deux, trois autres qui n'étaient pas trop mal. Et tout le reste, globalement, on les a tous oubliés, on s'en fout. Parce que Marvel s'est jamais concentré sur les méchants jusqu'à présent.
Et ben là, oui, ils le font. Ils le font et ils développent un méchant qui a des côtés positifs. Hein. C'est les meilleurs méchants, c'est ceux où on comprend un tout petit peu pourquoi ils font ce qu'ils font, et que quand ils doivent prendre une décision difficile, bah on se dit « Ah, ok, c'est pas juste une décision qu'on prend un lundi matin, quoi. C'est un truc... il va y avoir des conséquences, quoi. » Donc c'est très intéressant, et d'ailleurs, dans ce film aussi, il y a des conséquences pour certains personnages.
Clairement, bah il y a des morts,
voilà,
on n'en dira pas plus.
Il y a même autre chose que des morts, mais soit, on va en parler plus en détail une fois qu'on fera une petite émission spoiler, peut-être, ou quelque chose comme ça, une discussion.
Tu veux qu'on fasse une discussion spoiler sur...
Je sais pas, mais ça va revenir un de ces quatre,
peut-être,
c'est clair.
Peut-être.
Parce qu'il y a quand même deux, trois retournements de situation assez imprévisibles.
Oui, alors ça, c'est vrai que dans l'ensemble... Oui, on peut le dire, sans en dire beaucoup plus.
Non.
C'est que... Alors, je vais pas dire que ça va de climax en climax, mais il y a quand même pas mal de retournements de situation. Et à moins d'être un fan hardcore de Marvel, donc j'entends par là surtout des comics, on sait pas trop. Enfin, on peut pas trop savoir jusqu'où où on va exactement. Alors la fin est super belle. J'ai adoré la fin du film. Et effectivement, quand on connaît pas bien le truc, on sait pas forcément ce qui va se passer après. Est-ce qu'elle peut laisser présager pour la suite. En tout cas, elle n'est pas très optimiste, je pense qu'on peut dire ça quand même.
Non.
Mais
Rappelons que c'est quand même
elle fait
une.
beaucoup de bien,
Oui, mais
parce
rappelons que
qu'on n'a
c'est.
jamais vu ça dans un film du MCU
Tout à fait.
jusqu'ici.
Ça faisait un peu penser limite à Game of Thrones. Mais rappelons quand même qu'il y a une deuxième partie au film dans pas très
Oui,
longtemps,
ouais.
dans un an tout pile. Donc c'est plutôt une œuvre à voir en deux films que juste se dire voilà, c'est la fin, c'est fini. Non, il y aura une deuxième partie, quoi. C'est ça.
Ouais. Alors après, il y a quand même des petits défauts au film. C'est assez répétitif.
Très répétitif, c'est
Parce que c'est Thanos qui va chercher une pierre et les autres l'empêchent, quoi. Et c'est
une
comme
pierre,
ça
cinq
pendant.
pierres, c'est
Ouais, sauf que. Ouais, bien sûr.
ça.
Et donc, oui, il va chercher six pierres au total. Et donc, à chaque fois, voilà.
Bah en fait,
Il se
c'est.
pointe et il faut l'empêcher.
On dirait un jeu scout. Mais non, mais exactement. Donc c'est vraiment les 15 premières minutes, c'est une pierre, 15 minutes, c'est une pierre, 15 minutes, c'est une pierre, 15 minutes, c'est une pierre. Allez, une demi-heure, c'est la dernière pierre. Et
C'est un
puis,
peu
oh,
ça.
on a perdu la pierre, donc du coup, il y a encore 15 minutes. Et donc, du coup, c'est vraiment comme ça qu'ils ont construit le film, et comme ça, ils ont
Après,
pu séparer chaque
c'est un
personne
schéma
aussi.
narratif classique, c'est le schéma de la quête. Thanos fait sa quête, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était le personnage principal du film. En fait, c'est lui le
Bien
héros.
sûr.
Thanos fait sa quête, et les Avengers sont, d'une certaine façon, les méchants du film. Évidemment, c'est pas le cas, ce sont les bons, mais ce sont eux qui viennent empêcher Thanos de faire ça, de poursuivre ses objectifs. Donc ce schéma est assez classique, il est efficace, mais voilà, du coup, c'est pas le schéma qui donne le plus de surprises au film.
Non.
Et le film existe quand même relativement bien tout seul. Bien sûr, c'est une première partie d'un film enfin d'un diptyque, mais c'est souvent le problème des films en diptyque, c'est que le premier, bah, il faut absolument voir la suite.
Ouais, bien sûr. Et
Pour
chose.
arriver à la conclusion. Et là, je trouve que le film existe quand même plutôt bien en lui-même, même si dans l'ensemble, il n'y a pas des objectifs énormes non plus. Voilà.
Et chose qui est assez positive aussi, c'est que bah, même si, par exemple, vous voyez certains films Marvel que j'ai loupés, j'ai pas été désorienté en regardant celui-ci, quoi.
Non, non,
Je me
bah
suis
non,
pas dit,
parce
oh
que.
mon Dieu, j'ai rien compris, c'est qui encore ce type ou
Non,
quoi?
mais
Très vite,
globalement,
ça.
bien sûr, on sait que Loki a une pierre avec le Tesseract. On sait qu'il y en avait une autre qui était chez le collectionneur depuis les Gardiens de la Galaxie, etc., etc.
Mais tant
Enfin,
même.
depuis Thor,
Oui, mais
pardon.
c'est ça, mais tant même qu'on le saurait pas, et
Voilà,
très vite, on comprend,
mais
quoi.
oui, c'est
Mais
ça. Même si tu connais pas tous les films, tu sais que. Enfin, tu comprends vite qu'il y a des pierres qui sont disséminées
oui, c'est ça.
dans la galaxie et que voilà, faut qu'ensemble, elles peuvent former quelque chose d'énorme. En gros, c'est ça.
C'est ça. Alors, deux derniers détails quand même sur ce film. On l'a vu en IMAX et on l'a vu en 3D.
Ouais.
Alors, pour moi, le IMAX était vraiment somptueux. Parce que justement, il n'y a pas ce changement d'image comme on peut avoir avec notre ami Cricri Nolan. Par contre, la 3D était assez anecdotique dans le sens où c'était la conversion 3D et au tout début du film, tu te dis, oh! En fait, la meilleure 3D, c'était le générique Marvel du début. C'est vrai. Après, c'est un peu bon, un peu anecdotique, c'est pas
Alors
très grave, quoi.
c'est vrai que la 3D n'est pas essentielle. Clairement pas. Et effectivement, c'est une conversion 3D. Le film n'a pas été tourné en 3D. Et ça se sent. Mais voilà, ça ne m'a pas gêné outre mesure. Mais clairement, elle n'est pas essentielle. Par contre, en IMAX,
Ça a de la gueule quand
ça a clairement de la gueule.
même.
Donc le film, et ça, Disney nous a envoyé un petit mail d'ailleurs après la projo, et je trouve qu'il est plutôt bien.
Je n'ai
Ça
pas
fait du
lu.
bien
De
de
quoi
rappeler
parle
ce genre de choses.
de quoi est-ce qu'il
En
parle?
fait, il nous vante le fait que le film est le premier film hollywoodien tourné entièrement avec des caméras IMAX. Parce que la plupart des films qu'on voit en IMAX, ce sont plusieurs séquences, ou beaucoup de
Oui.
séquences, qui sont tournées en IMAX. Mais l'entièreté du film n'est pas tournée en IMAX. Voire Dunkerque de Nolan, effectivement, où les rares changements de ratio, en fait, ce sont Les scènes qui étaient dans le bateau, effectivement, n'étaient pas tournées en IMAX parce que ça n'avait aucun intérêt. Ce sont des scènes quasiment en intérieur, dans des petits espaces restreints. Donc voilà, ça ne servait à rien de tourner en IMAX. Et c'est pour ça qu'il y avait ce changement de ratio. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de changements de ratio dans Transformers 5. On en a tous fait des crises d'épilepsie tellement parce c'était insupportable.
Parce que le mec n'arrête pas de couper toutes les 3 secondes aussi. C'est surtout pour ça.
Voilà, aussi. Mais donc voilà, ici, le film est tourné entièrement en IMAX, ce qui fait que, avec un ratio de 1,90, le ratio classique en fait, qu'on trouve dans les cinémas, on est plutôt à du 2,40 en général. Mmh. Donc c'est le format scope qu'on voit dans les cinémas, le 7/9 traditionnel dans la majorité des salles. Ici, on est en 1,90, donc 1,90. L'image est plus grande, en fait. Il y a, que je vérifie dans le petit mille de Disney, 26% d'image en plus.
D'accord.
Donc...
C'est un peu comme si on avait enlevé les deux bandes noires au-dessus et en dessous.
Mais c'est ça, c'est juste qu'il n'y a pas les bandes. Les bandes qu'on a d'habitude au-dessus et en dessous, ou sur les côtés, en fonction du ratio utilisé. Il n'y a pas, donc c'est-à-dire qu'on a l'image complète. Parce que généralement, quand on tourne un film, en fait, il y a plus d'images que ce qu'on voit réellement à l'écran.
Il y a la box finale, entre guillemets.
Voilà, c'est ça. Il y a un recadrage dans la caméra. Sur le combo,
fait,
effectivement, il y a déjà un petit cadre qui est dessiné pour qu'on voit véritablement ce qu'il y aura à l'écran.
Et il y a un espace perdu tout autour.
Voilà, il y a un espace perdu autour. Et ici, il n'y a rien qui est perdu. Tout ce qui a été filmé est à l'écran.
D'accord.
Et donc forcément, si vous voulez voir le film dans sa meilleure version possible, il faut le voir en IMAX, dans un IMAX qui peut diffuser, enfin qui peut projeter du 1,90, du 1,90,
ils ont
c'est pas le cas de tous.
Ils n'ont pas tourné le film en IMAX alors ? Ils ont tourné avec des caméras normales, mais ils ont juste agrandi le frame, quoi.
Non, ils ont tourné avec des caméras IMAX.
D'accord. Ce qui a du sens, parce que c'est un peu par rapport à Christopher Nolan, qui lui tourne par exemple à Dunkerque, dans la mer, etc. Là, tout est fait dans un studio, mais je crois qu'il y a peut-être deux scènes qui ne sont pas dans un studio, quoi, et encore généreux. Donc du coup, forcément, pour déplacer des caméras pareilles, c'est plus facile, quoi.
Ouais. Ah oui,
ils ont le clairement.
Ouais, ils se sont pas cassés le cul comme Nolan à devoir mettre des caméras IMAX dans l'eau, quoi, sur la mer. Donc non, voire sous l'eau. Mais donc voilà, ça arrive pas souvent, mais quand même de temps en temps. Enfin, on s'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on parle de l'IMAX et qu'on recommande aux gens d'aller voir des films en IMAX.
Ouais, dans ce cas-ci.
Mais une fois de plus, on va le faire parce que ça valait clairement la peine.
Bah, surtout que s'il y a bien un film de super-héros qu'il faut aller voir de temps en temps, c'est l'Avengers. Voilà, si vous n'êtes pas fan du Marvel Universe comme moi et que vous n'avez pas envie de voir tous les films Marvel qui sortent tous les 6 mois maintenant, alors là, voilà, c'est le film sur lequel il faut peut-être déposer 15€ et se faire plaisir, quoi. Je pense que c'est...
Complètement.
C'est le big one, comme on dit. Et il ne déçoit pas du tout par rapport à son histoire et par rapport justement à cette construction d'un truc gigantesque.
Non, non. Mais au final, je pense que c'est peut-être un des Marvel que je préfère.
Oui, clairement.
Et dernier point, avant que je n'oublie, la musique. C'est Alan Silvestri qui l'a signé, donc le compositeur de la musique de Retour vers le futur et de Ready Player One dernièrement. D'habitude, la musique est quelque chose de très anecdotique dans les films Marvel. Oui. D'ailleurs, il y a cette fameuse vidéo de Every Frame a Painting, chaîne YouTube, qui... Mm-hmm. Mais voilà, ils ne font plus de vidéos, malheureusement. Mais les anciennes vidéos sont toujours là, elles sont très très bien. Every Frame a Painting avait fait une super vidéo qui expliquait pourquoi la musique de Marvel était complètement anecdotique dans les films. Ici, si ce ne sont deux thèmes emblématiques, le thème des Avengers et celui de Captain America... Enfin, ce sont ces deux-là qui ont une ampleur, qui prennent une ampleur de dingue, enfin qui donnent une ampleur de dingue à certaines scènes. La musique est quand même plutôt bonne dans l'ensemble. Alors, je vais pas dire que j'ai retenu toutes les musiques qu'il y a eu, mais je les trouve un peu meilleures que d'habitude. Et je pense que c'est entre autres parce que c'est Alan Silvestri qui s'y est collé, vraiment un grand compositeur. Et ça fait quand même une petite différence, pas négligeable.
Oui, je trouvais justement que le film, d'habitude, les films de super-héros ont tendance à être très bruyants. Alors, il était bruyant, parce qu'en plus, c'était en IMAX. Mais c'est pas genre, par exemple, il y a un suspense, alors du coup, la musique va aller crescendo. C'était plus intelligent que ça, quoi. C'était pas le truc... par exemple, on a vu un autre film hier, qui lui, par contre, utilisait la musique dans la brume, on va en parler plus tard.
J'ai oublié ce qu'on avait vu hier.
Qui lui utilisait la musique, mais alors là, mais à turzing, comme disent les vrais. À des moments où t'es là, bon, on a compris, c'est stressant, t'es pas obligé de me crier dans l'oreille que c'est stressant. Et donc, c'était un peu le cas. C'était pas pour autant que c'était mauvais, mais dans ce cas-ci, c'était plus subtil. Voilà. tout ce que je voulais dire.
Ouais.
Donc, on donnerait quelle note à Avengers, le gros paquet de popcorn. C'est un peu comme ça qu'on peut l'appeler, ce film.
Bah écoute, je vais être très gentil, je vais te donner 3 étoiles. Allez.
Ah ouais ?
Ouais.
J'ai même pensé que t'allais mettre 4.
Non, quand même pas.
T'étais quand même content.
Non, faut pas déconner.
3 étoiles. Mais ça reste un Marvel, c'est ça ?
Bah non, c'est pas que ça reste un Marvel, mais après, ça reste un... Ça reste un blockbuster et qui n'est pas très original de surcroît donc et qui révolutionne rien donc
pas,
voilà
pas de Dark Knight.
Mais il fait très bien ce qu'il veut faire donc c'est un bon 3 étoiles, j'ai pris beaucoup de plaisir.
Ben, je pense que les frères Russo, parce que c'est ceux qui ont fait Captain America 2 et tout là.
C'est ça, ils ont fait Captain America 2 donc le soldat de l'hiver et le 3 Civil War.
C'est un peu les
Le 2 était très bien, Civil War était un peu moins bien. Ouais, ici, là, c'est très bien aussi.
Mission accomplie pour dans ce cas-ci.
Ouais, bah ils font partie des meilleurs réalisateurs du MCU avec James Gunn pour les Gardiens de la Galaxie
et Whedon.
Et Joss Whedon qui a fait du bon boulot à ses débuts. Jon Favreau a fait deux bons Joss Iron Whedon. Man aussi.
Hmm? Joss Whedon, il est où maintenant?
Mais il est parti chez DC. C'est lui qui a fait Justice League, qui a repris le flambeau après Zack Snyder. Fait des
reshoots, mais
oui, plus que des reshoots. Hein.
Ouais, mais tu crois qu'il va vraiment rester chez DC maintenant?
Bah écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait.
Soit.
Je sais pas si j'ai envie de le savoir. Je suis pas très fan de Joss Whedon.
Il prépare la fin de Batman avec Ben Affleck pour en faire un nouveau après avec quelqu'un d'autre, avec Jake. Soit, tout ça pour dire Avengers 3 étoiles.
Ouais.
On passe au point Hollywood.
On peut passer au point
Hollywood. On en parlait tantôt, Jumanji qui cartonne en Belgique et dans le monde entier d'ailleurs. Je crois qu'il a dépassé le milliard si je me trompe pas.
Je pense.
Oui, j'avais vu une deadline. Et donc du coup, qui dit milliard ? Qui dit The Rock, 18. Et donc, Jumanji 2, enfin 2, 3, hein, si on compte dans l'ordre des films, sortira en fait déjà en 2019, l'année prochaine.
Ah, ok, c'est pour ça. Mais je comprenais pas en fait. Parce que je voyais effectivement partout Jumanji 3, 2019.
Oui, Jumanji 3.
Ouais, mais je pensais que dans le nouveau Jumanji, c'était un espèce de reboot en fait. Non. En fait, c'est une suite au film avec,
oui,
avec Robin Williams.
Plus tard, quoi. Oui, c'est ça.
D'accord, ok, d'accord, c'était ça.
D'accord.
Ok, donc je comprends mieux pourquoi on dit Jumanji 3 maintenant. Parce que c'est je ça. Me dis, mais
donc Jumanji
quel
3.
Est le fuck.
Déjà en 2019, donc ça veut dire que le tournage, c'est genre demain, mon coco. et ça va foncer, quoi. Ils ont intérêt à aller super vite. Il va sortir par contre à Noël 2019, enfin, pendant la saison des fêtes de Noël.
Comme celui-ci, en fait. Hein.
Oui, et donc il va être
Sauf qu'il est sorti chez nous fin janvier, ce qui était complètement con. Mais soit.
Oui, il va être en concurrence avec le Star Wars de J.J. Abrams.
Ouais.
Autant vous dire que c'est de la concurrence, quoi.
Ah, ça
va bien se faire chier. Mais non, Jumanji 2 n'était pas sorti à Noël chez nous aussi. Il n'était pas sorti genre février ou quoi ?
Non, chez nous, il était sorti fin janvier, c'est ce que je te disais.
Ah oui, ok, d'accord. Ah, une très bonne saison pour sortir au cinéma chez nous, parce qu'il se passerait fin janvier.
Ouais, enfin, le film était déjà en avant-première, tu te souviens, pendant les 3 semaines, UGC, un mois. bah, même, c'était pas que chez UGC, c'était vraiment partout. Hein. Le film était sorti, en fait. Hein.
C'est les fausses sorties, c'est marrant ça.
Ouais.
Toujours en News Hollywood, on continue avec The Rock, qui confirme qu'il va faire un nouveau film Doom, après ce...
Que tu parles de The Rock,
Subide, quand même, faut le dire.
Il est devenu papa encore hier.
Ah, super.
En même temps que le Royal Baby.
Ah, mais dis donc.
Tout le monde a parlé du petit bébé anglais, mais voilà. The Rock est devenu papa.
On n'a pas parlé
d'une petite fille encore.
Du Baby Rock. Eh ben, dis donc, bah, félicitations.
Et je sais pas si t'as vu les affiches de Skyscraper, mais il se met bien, The Rock, là. Avec ses films tout pétés.
Bah, il faut qu'il fasse attention quand même, parce qu'il pourrait vite devenir le nouveau Jason Statham. Hein. Je sais pas si c'est ça qu'il a envie. Quoi.
Complètement, ouais.
Je sais pas si t'as vu la bande-annonce de Meg.
Non, j'ai pas vu.
Voilà. Mais, un Sharknado avec Jason Statham, oui, c'est pas mal. Oui. Ça donne envie en tout cas. Peut-être pas pour les bonnes raisons.
Une bonne soirée beer pizza entre potes.
Une bonne soirée Domino's sponsorisée par Domino's oui, devant des films de merde, tout à fait.
Arrête de faire de la pub comme ça.
Oh bah oui, bah, Domino's c'est les meilleurs de toute façon. Tu préfères. Non ? Tu préfères
c'est,
pizza
c'est même pas des pizzas à Domino's.
Non, mais si tu dois commander une pizza, tu préfères laquelle?
Ben, je commande dans un resto et puis qu'on me livre.
Ok, oui, bien sûr. Mais bon, si tu dois faire confiance aux chaînes de fast-food.
Ben, je vais prendre une barbecue chez Pizza Hut.
Oh, merde. Depuis que j'ai découvert Domino's, c'est fini. Pizza Hut. Et pourtant, je travaille chez Pizza Hut. Soit.
T'aimes vraiment la merde, hein?
Ouais, la barbecue chez Pizza Hut, c'était pas mal. En fait, le menu, le lunch à midi... Si on doit discuter entre fatouzes.
On va renommer ce podcast.
C'est ça.
Food porn
si Domino's veut nous sponsoriser, je suis très content de manger une spéciale barbecue pendant l'épisode. Et je toutes les 10 minutes. Utilisez le promo code Cinecast. C'est ça. Bon. On est en train de partir de nouveau. The Rock, c'est pas vraiment The Rock là maintenant, mais c'est Fast and Furious qui va sortir sur Netflix. Alors, attention, on n'est pas en train de se dire que ça va être des bagnoles sur Netflix.
Non.
C'est une série animée. C'est pour les enfants. Il faut savoir que sur Netflix, ça marche bien. Tous les trucs animation, pour l'instant, c'est en train de décoller parce que qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils ont un compte Netflix et hop, ils filent la tablette aux enfants quand ils sont à dîner. Et donc Netflix commence à se rendre compte qu'ils ont vraiment une carte à jouer chez les plus jeunes. Encore.
Ah ouais, bah complètement. Déjà, Trollhunters, la série de Del Toro, a très bien fonctionné.
Mm-hmm.
Et elle est très chouette. Hein. Moi, je l'aime beaucoup. Donc ouais, je pense que c'est un bon créneau, les séries animées.
Ils ont une carte à jouer, surtout que Disney arrive dans pas longtemps avec leur plateforme.
Et rien à voir, mais il y a Batman Ninja qui arrive bientôt aussi. Ça va être très bon, ça. Ça a l'air bien. J'ai vu la bande-annonce et tout. Batman Ninja. Mais c'est un Batman, mais Ninja. Voilà.
Ok.
Ça a l'air dingue.
C'est fou, vraiment, la créativité qu'on a aujourd'hui.
Ça a l'air vraiment très très bien.
Un jour, il y aura
Batman... Je pensais pas dire ça un jour, mais ça a l'air vraiment très bien.
Et quoi, un jour, il y aura Batman Coupe du Monde ou quoi?
Alors ça, je ne pense pas.
C'est un footballeur.
Mais ouais, Batman Ninja, ça a l'air vraiment cool. Pourtant, j'aime pas le genre de... Ce genre de croisement comme ça, entre deux trucs qui, a priori, n'ont rien à voir, mais...
Déjà qu'il y avait Lego Batman.
Ça a l'air assez excitant.
Et Lego Ninjago, alors maintenant, il y a le Batman Ninja.
Mais là, ça va être un Ninja... Batman Ninja, ça va être en 2D classique. Hein.
Oui, je me suppose bien, oui.
On n'est pas un truc Lego ou en 3D dégueulasse.
Et la série animée Spider-Man, elle sort sur...
J'ai envie de te dire laquelle, déjà.
Bah, ils font,
parce que je pense qu'il y en a beaucoup.
In the Spider-Verse, un truc comme ça, une toute nouvelle.
Ah ouais.
Ouais. Je crois que c'est sur Netflix.
Je t'avoue que je regarde très peu de dessins animés.
Ah non, pas sur Netflix, on est con. Forcément sur Disney. Le réalisateur de Deadpool 2.
Non, parce qu'il appartient toujours à Sony.
Ah oui, c'est vrai.
Spider-Man. Il est dans la MCU, mais c'est Sony qui garde le côté économique.
Prêté par Sony.
C'est voilà, plus c'est ça. Okay. C'est Sony qui le prête à Disney, si
tu contre un petit cachet. Dernière news pour Hollywood, c'est le réalisateur de Deadpool 2, David Leitch, qui va réaliser The Division avec Jake Gyllenhaal et Jessica Chastain. Pour ceux qui ne connaissent pas The Division, je pense que tu ne connais pas The Division.
Non.
C'est un jeu vidéo qui est sorti par Ubisoft il y a genre 2-3 ans maintenant. Le concept est tel le suivant. En gros, c'est la fin du monde et des survivants sont dans New York. Et il faut organiser la société avec des rations, de la nourriture, etc., etc. Et donc, il y a des divisions qui sont créées pour... c'est un peu comme des mercenaires qui doivent aller un peu régler des conflits à gauche, à droite. Enfin, soit c'est un peu le boxon dans New York City.
Mmh.
Et post-apocalyptique à New York. Mais c'est pas avec genre des aliens ou quoi que ce soit. C'est vraiment les humains entre eux qui doivent survivre dans un monde qui part en couille, entre guillemets.
D'accord.
Et donc, il y a des méchants humains, etc., etc.
Ah oui, je vois.
Même style que dans la brume, mais poussé un peu à l'extrême. Quoi.
Ok.
Plus loin.
Pourquoi pas.
Sans la brume.
Ouais. Oui, j'entends bien. Donc
même
bien.
Plus que dans la brume, t'enlèves quand même 2-3 trucs.
J'entends bien.
Assez important.
Bien. Pourquoi pas, ça a l'air sympa.
Oui, en tout cas, le jeu était sympathique. Maintenant, il faut voir comment tu l'adaptes en film, parce que le problème, c'est que contrairement à Assassin's Creed, qui avait un pitch, un pitch qui valait des millions, et qui se sont complètement foirés, là, par contre, le pitch ne vaut pas des millions, c'est assez classique. Donc, il faut voir comment ça sera exécuté, quoi. Très important. Mais c'est clair que passer de Deadpool à ça, il y a quand même un monde de différence puisque le jeu n'est pas du tout drôle. C'est très sérieux, quoi. C'est un ton assez dramatique, un peu Walking Dead plutôt que Deadpool, quoi. Donc voilà, ça c'était pour le point Hollywood. À part si t'as encore quelque chose à me dire sur Hollywood.
Non.
Non.
Je pense non, Spider-Man, mais.
Tu m'as déjà dit que Dwayne Johnson était papa, c'est bon, quoi.
Ah oui,
ça. Après ça, on a tout dit.
Non, Spider-Man, ils vont tourner le film sans doute plus, enfin pas uniquement à New York. Et donc apparemment, le personnage pourrait aller un peu partout dans le monde entier.
J'ai vu Londres, moi, sur l'article.
Ouais, c'est ça.
Ça m'étonnerait pas. Hein.
Il pourrait tourner à Londres, ou ça pourrait se passer un peu à Londres, voire dans d'autres villes européennes.
Au Japon.
Mais,
Japon. Ah oui.
Ouais.
Il y a des chances.
Mais écoute, voilà. Spider-Man qui sort de New York. Ça, je l'ai dit, il a déjà été à Berlin, dans Civil War.
C'est vrai.
Mais voilà, Spider-Man hors de New York, ça reste quand même un petit événement.
Bah, j'avoue aussi, ça c'est un truc qu'on va pas parler, mais c'est vrai que dans Infinity War, ce qui était plaisant, c'est qu'il y avait vraiment une grande diversité en termes d'endroits, en fait. Il y avait plein d'endroits différents qu'on a explorés dans le film, et t'avais un peu l'impression de voir James Bond parfois, parce que toutes les 10 minutes, t'avais un titre qui était affiché, on est là, et donc, on a l'impression de voyager beaucoup, même si on est pas mal dans l'espace quand même. On voyage pas mal. Donc voilà, c'était C'était encore une dernière parenthèse sur Infinity War. Avant de parler du deuxième film de la semaine, changement de registre total, comédie française, Comme des garçons, premier film pour notre ami Julien Allard, avec Max Boublil. À chaque fois je dis Boublil, mais Boublil.
Oh, tu vas prendre.
C'est ça. Et Vanessa Guide, entre autres, d'autres personnes aussi, Bruno Lochet, etc. Une comédie qui retrace un fait qui peut être vu de manière dramatique aussi, puisque c'est des femmes qui qui veulent lancer leur équipe de foot. Voilà, mais sauf que...
Ah, des femmes du foot.
Des femmes mais du non. foot, mais non.
Le foot, c'est un sport d'homme.
Mais non. Déjà, apparemment, elles devaient avoir la permission de leur mari pour pratiquer un sport d'équipe.
Ouais.
Ce qui, ça, m'a troué le cul. J'ai mis pause à ce moment-là. J'ai fait, Chloé, tu savais qu'on peut obligé d'avoir une permission pour jouer au foot? Et puis elle me dit, ah non, je savais pas, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ton film? Je vais monter 3 minutes, elle a pas voulu continuer.
À ce point-là.
Pour des raisons D'accord. évidentes, dont on va discuter dans quelques secondes. Donc, film feel good, on peut le dire. Puisque c'est abordé avec beaucoup d'humour, beaucoup de jeux, beaucoup de gaieté, beaucoup de gags, de goofs. Avec notamment le personnage de Max Boublil, je vais y arriver, qui est haut en couleur et qui est très proche d'un garçon Lagaffe. On est presque là quand même. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film qui aborde quand même un sujet un peu à la mode ces temps-ci, et pas pour rien, tant mieux, mais le sujet du voilà, la femme qui va se révéler dans un secteur particulier. On avait vu ça cette année dans Battle of the Sex avec les femmes qui font du tennis. Mm-hmm. Ici on a les femmes qui font du foot. J'ai pas pu m'empêcher de faire un rapport entre les deux films, même si le traitement est différent dans les deux films. Qu'en as-tu pensé ?
L'histoire est un peu... Bon, d'un côté, elle est un peu dingue, en fait, parce que c'est vrai qu'effectivement, on a une époque où les femmes devaient demander l'autorisation par écrit de leur mari pour pouvoir faire un sport d'équipe.
Exact.
Et c'est une époque où on a mis des bâtons dans les roues de ces femmes pour qu'elles puissent monter une équipe de foot. Voilà, rien que ça, tu dis déjà...
C'est carrément au début,
c'est... En fait, c'est l'époque où les hommes se sont rendus compte qu'en fait, les femmes, c'était pas une sous-espèce de l'homme, quoi.
Ils ont eu un réveil, comme c'est du jour au lendemain.
Wake up call.
Mais c'est 69, donc c'est un an après 68, forcément. Il y a un peu le changement des mentalités. Et bravo, s'il vous plaît.
Bravo.
Changement des mentalités, et donc forcément...
T'as fait maths 7, toi, je le sens.
Non. Certainement pas. Des 5 coloriages. Donc, il y a vraiment tout un changement des mentalités, comme tu le dis, mais qui part vraiment d'une impulsion. C'est par opportunisme hein, que ça démarre, en tout cas dans ce bureau-là. C'est pour se foutre un peu de la gueule des femmes à la fin de s'y faire, entre guillemets, annuel.
Ouais,
c'est pas.
Le gars le voit pas. Enfin, le personnage de Max Boublil le voit pas.
Au tout début, oui.
Complètement.
Après,
comme ça.
Il comprend très vite que c'est plus que ça.
Oui. Ouais. Ouais, alors oui, à la base, il aurait bien voulu avoir des nains qui jouent au foot, quoi.
Oui.
Et puis il se dit, finalement, des femmes qui jouent au foot, ça se fait pas.
Si on leur met des mini-shirts, ça serait
alors,
mieux.
Alors, je sais pas s'il le voyait comme du foutage de gueule, mais en tout cas, il le voyait comme un truc complètement bizarre, qui sort de l'ordinaire.
Oui, c'est ça.
Et qui donc pouvait attirer du monde. Voilà. Effectivement, à part après, il va se rendre compte qu'il y a un vrai potentiel sportif, économique et autres derrière tout ça. Mais voilà, la base de cette histoire est quand même assez dramatique, puisqu'on se rend compte que voilà, ces femmes ne peuvent pas faire grand-chose comme elles le veulent.
Non.
Enfin bon, même si c'est pas une grande révélation. Mais voilà. Et tout ça va servir de base à une comédie franchouillarde on ne peut plus classique.
Oui, c'est
avec
vrai que c'est très...
tu vois tout venir à des kilomètres, vraiment à des kilomètres, quoi. Genre, au début, le mec il se tape la belle blonde, mais en fait, tu sais bien qu'il aime l'autre et que l'autre l'aime bien aussi.
Et qu'elle est moche parce qu'elle a des lunettes.
Ah, oui.
Dès qu'elle enlève ses lunettes,
c'est vrai que les gens avec des lunettes, c'est vrai que les gens avec des lunettes, ils sont quand même hideux.
Mais c'est tellement drôle parce qu'elle est super belle en plus.
Ouais, elle est très belle.
Oh, la bigleuse et tout. T'es là, mais écoute, tu l'as vu deux secondes, la bigleuse. Ouais. Elle est très très belle, la bigleuse.
Ouais,
voilà, donc soit.
C'est très macho avec plein de réflexions qui sentent bon les années 60.
Bah, le monde du foot en plus.
Ouais. Qui sent bon le football.
Football, ouais, tout à fait.
Qui sent bon plein de choses puantes.
Exactement.
Et voilà. Alors, certes, il y a des blagues. Certes, le sujet est quand même un peu intéressant, il faut bien le dire.
Oui.
Mais au final. ça casse pas trois pattes à un canard, quoi.
La phrase préférée de Thibaut, ouais. Surtout les posters, ça casse pas trois quêtes à un panard. Un panard, c'est bien, Guillaume, qu'est-ce qui se passe?
Ouais.
J'en perds mon français.
Non, mais alors, on prend pas de déplaisir devant ce film, tu vois, mais voilà, quoi.
Moi, il y a un truc que quand même, j'avais envie de foutre une baffe à Max Boublil, quand même. C'était
pour moi, ça, c'est de nature, c'est tout le temps.
Ce type.
Qui n'a pas envie de mettre une baffe à Max Boublil?
Non, mais il surjoue, il en joue des caisses. Et... Tu sais, son personnage du mec qui remet sa mèche en place toutes les deux minutes, au bout de deux minutes,
t'as l'impression qu'il joue un vaudeville, mais au cinéma, quoi.
Exactement.
Et il est là, hey, les caméras sont là. Hey, salut, ça va?
C'est vraiment ça. C'est bon, on a compris, quoi. Et tu sais, il y a cette espèce de lumière, cette lumière pétante, comme ça, des films France 2.
Un peu blanche, un peu terne. Oui. Ouais. Bah, oh, genre, il faut faire vieux film.
Genre, oui, il faut faire vieux film, alors que ça se voit clairement que c'est pas vieux film. C'est vrai que pour ça, l'espèce de... allez... Comment on appelle ça? Putain, j'ai du mal. Quand, allez, un film d'époque, dans ce cas-ci, on n'a pas vraiment cette impression. On a vraiment l'impression que c'est filmé aujourd'hui, sauf qu'ils sont habillés avec des vieux vêtements. Quoi. C'est vraiment ça.
J'ai trouvé que Vanessa Guide, qui joue l'actrice principale, était plutôt pas mal. Elle n'a pas grand-chose à défendre. Après, elle fait quelqu'un d'assez timide, même si elle aime bien dire son mot de temps en temps. Mais voilà, elle n'était pas trop mal. Renaud Rutten ne m'a pas énervé pour une fois. J'aime pas toujours ce qu'il fait, mais là, je le trouvais pas mal.
En effet. Il y a quand même un truc qu'il faut dire. Ça, c'est pour moi, c'est un des plus gros points négatifs du film. Mais c'est surtout une occasion manquée. C'est que, contrairement justement à Battle of the Sex, ici, le personnage principal du film est un homme, qui, de plus, n'est pas très malin. Alors qu'avec une histoire pareille, on aurait pu mettre la femme comme étant l'actrice principale du film, ou en tout cas suivre l'histoire du point de vue de la femme et non pas du point de vue de l'homme.
Le film est selon plusieurs points de vue quand même. Il est de son point de vue à elle aussi quand même une bonne partie du film. Après j'entends bien l'argument effectivement que c'est un mec qui est l'acteur principal, enfin qui a le rôle principal et que voilà. Mais vu le personnage, en fait, c'est pas plus mal parce que c'est vraiment un gros con, ce type. Et donc, il met en valeur les femmes d'une certaine façon.
Oui, c'est un gros con qui a du cœur.
Voilà. Non, mais je veux dire, pas volontairement, mais je veux dire, par sa connerie, par sa débilité, les femmes se relèvent, tu vois, et sont mieux exposées. Donc, dans l'absolu, ça ne me gêne pas, ce genre de choses, mais effectivement, l'argument se défend dans beaucoup d'autres films, ça, c'est sûr.
Attention, le film aurait sans doute... perdu de son gag, entre guillemets, si c'était l'inverse, parce que forcément, si on suit le film du point de vue d'une femme, on va avoir toute la pression sociale qu'elle subit ou autre, tu vois. Non, chérie, tu peux pas faire du sport, j'ai pas utilisé ton papier, etc. Tu aurais toutes des scènes comme ça que tu n'as pas du coup dans le film. C'est plutôt des clins d'œil à la situation de la femme en mode ah oui, d'ailleurs, à l'époque, il fallait signer un papier. Hein. Ah ouais. Oui, d'ailleurs, à l'époque, non, non. Ou bien il arrive, il dit tiens, il donne 5000 francs à un mec pour qu'il permette à sa femme d'aller jouer. Mais t'as pas ces discussions, du coup, ces confrontations plus dramatiques, on va dire, entre une femme et son mari. Ça, c'est mis un peu au placard, en mode, bon, ça, c'est l'aspect trop dramatique du truc, on va pas en parler. Nous, on est là pour faire rire, on est là pour raconter une histoire de fille qui joue au foot, et qui joue bien au foot, quoi. Enfin, pour une d'entre elles, surtout.
Ouais.
Voilà.
Bah, une étoile.
Une étoile, comme des garçons.
Oui. Pour le papier et l'encre.
Exactement. Moins sympathique que ce que le poster en dit, je sais pas si t'as vu les...
Je crois que je l'ai vu, oui.
Des critiques sur le poster.
Et des critiques sur le poster.
Oh, bah mec, donc la moitié du tout, c'est... Enfin, la partie du bas.
Ah oui,
c'est les femmes.
Toutes les taglines. Au-dessus. Des critiques qui ont aimé.
On se demande qu'ils ont été payés combien. Hein.
Vas-y, qu'est-ce qu'ils ont dit?
Épatant. Une surprise. Un truc comme ça. Vraiment des trucs de...
Ouais,
vraiment,
et c'est elle et Télé Loisirs qui ont dit ça.
Non, même pas. Ça croit qu'on passe à côté de la plaque, c'est fait.
Ah ouais.
Sur Allociné, je crois qu'il y a 4 étoiles, mec.
Oh là là,
je te jure.
4
moyenne des avis, presse.
Ouais, enfin, il faut jamais se fier aux avis.
Qu'est-ce qui se passe?
Aux avis sur Allociné, mais
donc voilà, c'est pas un mauvais film. C'est un film qui passe bien, mais c'est un film.
C'est un film comme on en a déjà vu des dizaines et des centaines.
Classico classique, France 2, dimanche 14h. Voilà, vous avez compris le registre.
voilà.
Ensuite, parlons du point French. Il va être très court, hein, je vous le dis tout de suite.
Ouais, là, la fin de l'émission, ça va aller vite. Bah écoute, de notre horaire habituel, il nous reste une petite dizaine de minutes.
Bah voilà, assez pour faire le dernier film. Et,
oui,
et pour ça parcourir va aller les films.
Ça va aller vite.
Donc le point French, il est, comme on disait, très 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 petit. Mais attention, qu'est-ce qui fait plaisir
Si vous avez envie déjà, t'as déjà trop dit. Si vous avez envie de vous ouvrir les veines à l'audition de cette nouvelle, c'est normal.
Mais d'habitude, c'est nos voisins de 5 heures cinéma qui aiment bien casser du sucre sur Zaz. Cette fois-ci, c'est notre occasion de le faire. Donc Zaz, la fameuse chanteuse bien-aimée que nous connaissons tous, va incarner Edith Piaf dans une comédie musicale signée, en tout cas produite, par Thomas Langman. Je vois Thibaut qui recule sa chaise et qui est en train de secouer la tête en mode « Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme connerie dans cette émission ?»
Ouais. Mais alors là, c'est le genre de... Il n'y a rien qui te donne envie, quoi. Déjà, Zaz... Non. Edith Piaf, non. Et pire, Thomas Langman. Alors là, c'est 10 fois non. Quoi.
Et comédie.
Ouais. Ah, ça va être une comédie en plus.
Bien sûr que c'est une comédie. Enfin, en même temps, Zaz va commencer à chialer sur scène et à faire sa Marion Cotillard. Non. Ça, tu n'auras pas.
C'est-à-dire, j'ai toujours pas vu la môme. Mais.
Oui, non. Enfin, la môme, c'est bien.
Ouais, il paraît. Mais, ah oui, d'accord. Donc ça va être une comédie en plus. Oh, bah écoute.
Comédie musicale, bien entendu.
Oh, non!
Je vis les champs de Paris, je vis. Nanana. Ça va être un truc comme ça va être très bien.
D'accord.
Je me demande qui va être le casting secondaire.
Tu connais bien le répertoire de.
Ah, pas du tout, non, je suis juste en train de faire le rythme classique d'une comédie musicale.
Ah, ok, d'accord. Je crois que tu chantais une de ces chansons.
Tu n'as toujours pas rattrapé, je suppose, de Greatest Showman.
Non, bah là, écoute, je comptais pas le faire.
Il y aura sans doute une suite à ce film, à mon avis. Parce qu'il a vraiment bien fonctionné.
Ah ouais.
En tout cas, aux États-Unis, c'était le gros carton début d'année. Et Thomas Langman a dit de Zaz. En interview, forcément, il va pas dire l'inverse, c'est lui qui produit le film. C'est une future très grande actrice du cinéma français.
Mm-hmm.
On attend voir.
Alors d'un côté, Thomas Langman, il a quand même produit de rares bonnes choses, comme dit Artiste. Il a eu le nez fin, il faut le dire.
T'as pas coproduit avec notre ami Harvey?
Non, Harvey a fait la
distribution, et la promo, quoi, c'est ça.
Mais dans l'ensemble, les productions de Thomas Langman, c'est quand même un peu du caca.
Ça passe sous sa casque. Quoi.
C'est genre Astérix et Obélix 3, c'est genre les Star 80 et toute la clique.
Aux Jeux Olympiques, s'il te plaît.
Aux Jeux Olympiques, oui.
Faut mettre ça dans le contexte, parce que si tu dis 3, les gens vont peut-être pas savoir lequel c'est.
Ouais.
Aux Jeux Olympiques, avec Zidane à la fin du film.
Avec Michael Schumacher et Jean Todt.
Ok. Et pas Michael Youn, non.
Non.
On confond pas.
Ouais. Ouais, non, Thomas Langman.
Thomas Langman,
j'aime vraiment pas ce qu'il fait.
Qu'est-ce qu'il a fait d'autre encore? J'ai oublié.
Mais donc voilà, franchement, cette news, ça ne me donne absolument pas envie.
Et c'est dommage parce que c'est la seule news du cinéma français cette semaine. Il y en a sans doute d'autres, hein, avant que vous commenciez à écrire un commentaire, comme quand on oublie une news française. En tout cas, c'est celle qu'on a trouvée avant l'enregistrement. Troisième film et dernier film de la semaine, après qu'on ait beaucoup discuté, un film franco-israélo-allemand.
Un film israélien, quoi.
Un film israélien, oui, mais qui a été financé par BNP Paribas ou des trucs comme ça, qui s'appelle Foxtrot. Alors, parle-moi.
Qui est donc le nom d'une danse, hein.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas un film, genre, l'année passée, qui s'appelait Foxtrot.
Non, il y a 3 ans. Oui. Un film américain sur la lutte. Il s'appelait Foxtrot, non?
Foxtrot, oui.
Avec.
Pas Foxcatcher, hein.
Ah oui, non, j'allais dire Foxcatcher. Oui, c'était Foxcatcher, effectivement.
T'as vu ça?
Non, Foxtrot, je ne sais pas s'il y a eu un Foxtrot.
Soit, c'est pas ça la question. Donc du coup, film israélien, je n'y connais absolument rien, à part que ça parle de personnes mariées à Tel Aviv.
Mm-hmm. C'est bien parti jusque-là.
Qui service militaire, si ça parle d'Israël, sans doute.
Effectivement. Hein? En fait, c'est une famille à qui on annonce que leur fils est mort.
Bonheur.
Et puis en fait, non, il n'est pas mort.
Il faut sauver le soldat.
Et puis je sais pas ce qui se passe après. J'ai abandonné.
Quoi?
J'avoue.
T'as abandonné?
J'avoue.
Mais pourquoi t'as abandonné? Vraiment. Parce que c'était comme un homme à la terre, il se passait rien.
Non, mais en fait, c'est même pas que c'était mauvais. Je peux pas dire que c'était mauvais. Je suis jamais rentré dedans. Vraiment.
Ah, oui,
jamais,
c'est
jamais.
Ça, des films.
Et voilà.
Et la faute à quoi? La faute à toi? T'es pas fatigué? T'es un peu fatigué?
Peut-être
ou
un petit peu.
La faute au film?
Je sais pas. J'étais peut-être un peu fatigué, ça c'est vrai, mais c'est pas une excuse. Pourtant, j'aime encore bien les histoires de soldats et ces films où on annonce quelque chose à quelqu'un et tout ça va chambouler la vie des personnages. Mais vraiment, je suis resté de marbre pendant. Je crois que j'ai regardé quand même 40-45 minutes.
Mmh.
Et à mon avis, le film doit faire 1h30, peut-être 1h45, 1h50, j'en sais rien.
Oui, 1h53.
1h50, ouais. J'ai regardé, bon, j'ai pas regardé la moitié du film, mais plus d'un tiers. Et vraiment, ouais, je. Je peux dire que ça me faisait chier, c'est pas que ça me faisait chier, c'est que vraiment à aucun moment je ne suis rentré dedans. J'ai aucune empathie pour les personnages. À la limite, je m'en foutais de ce qu'ils allaient faire, tu vois. Et...
Le setup a raté, quoi. C'est pas un bon setup pour te faire
rentrer. Mais non, je dirais même pas ça, parce que le début du film est plutôt réussi. Ça je dois quand même je dois lui accorder, et si ça tombe c'est vraiment un bon film, hein, mais donc bon, là pour le coup mon avis n'est clairement pas le plus pertinent.
On pourra pas le coter,
mais je peux pas le coter, ça c'est clair, mais je trouve que le setup est plutôt pas mal, parce qu'on est assez vite dans cette scène où des soldats viennent annoncer à un père que son fils est mort, et puis après 10-15 minutes quelqu'un vient annoncer pour lui dire qu'en fait non, il est pas mort, qu'il y a eu une erreur quelque part, tu vois. Donc le gars est hyper confus,
ouais.
Et sa femme, elle est sous médoc aussi en plus, donc bon, vraiment c'est pas la joie, quoi. Et tout ça en fait va raviver des souvenirs au père, mais du coup je sais même pas lesquels, vu que j'ai pas été au bout du film. Mais
c'est une critique coup, à demi mot.
Mais non, mais en concept, fait, là l'analyse que je te fais, je la fais en repensant en fait à tout ça. Mm-hmm. C'est pas forcément ce que je me suis dit sur le moment même, mais voilà, avec du recul, je trouve que le setup est plutôt pas mal. Donc je vais sans doute lui redonner une chance, hein, mais voilà, vraiment, je suis absolument pas rentré dedans. Donc qui sait, une autre fois peut-être.
Du coup. Pas de notes pour Fox.
Bah non, Trot. Non. Mais ça m'a intrigué en fait, du coup, quand même.
C'est étonnant parce que bon, tu vois quand même beaucoup de films en général. En
plus, ah mais j'ai vu des trucs bien pires que ça. Cannes, etc. J'ai vu des trucs bien pires que ça. Mais voilà, là, j'avoue, j'étais un peu
ailleurs.
Circonspect.
Mais c'est un film qui est sorti il y a longtemps, non? Parce que je vois l'année de production 2017, donc du coup, c'est un film qui est sorti un festival ou un truc comme ça ou...
Il était à Venise.
Ah oui, d'accord.
Je pense qu'il a eu le prix du jury, quelque chose comme ça, ou le grand prix.
Carrément.
Ouais, ouais, il a été. Voilà, il a eu la cote. Hein, mais
contre-programmation pour Avengers cette semaine, du coup.
Ah, mais complètement, complètement.
Pour le coup, là.
Mais voilà. Ce fut sans moi.
Sans toi.
Ben non, pas de notes.
Pas de notes, pour le coup. Faisons un peu le recap du coup des films qui sortent la semaine du 25 avril.
Ben donc, cette semaine.
Foxtrot.
Note inconnue.
La contre-programmation Avengers. Deuxième film, Avengers Infinity War. 3 étoiles. Un des meilleurs Marvel depuis le premier Avengers, du nom.
Ben depuis Iron Man, en 2008.
Un des meilleurs Marvel tout court.
Oui.
Bam.
Enfin, un des meilleurs Marvel du MCU. Parce
oui, que, bien sûr.
Hors MCU, il y a quand même les Spider-Man de Sam Raimi. Il y a Blade. Voilà, il y a eu quelques trucs.
Non, mais depuis qu'Iron Man est là, c'est ça.
Voilà.
Depuis Robert.
Depuis 2008, on est bien d'accord.
D'accord. C'est un des meilleurs. Pas le meilleur, c'est un des meilleurs. Comme des garçons, comédie du coup française sur les femmes qui se mettent à jouer au foot. Assez anecdotique. Razia, un film belge. Que tu n'as pas vu pour le coup.
C'est pas belge, c'est tunisien.
Ah bon ? C'est indiqué comme belge. Voilà.
Non,
Mes sources sont fausses.
Il y a peut-être de l'argent belge dedans, mais c'est pas...
C'est ça.
Mais non, c'est un film de Nabil Ayouch qui a fait Much Loved. Tu sais, c'était le fameux film... Donc c'est un film marocain, je crois, pardon.
D'accord.
Le film dont l'actrice avait été jouée une prostituée et elle s'était fait un peu lynchée dans son pays, insultée, etc. Voilà. Donc voilà, c'est un film, je pense, marocain.
Ok. Et dernier film, c'est Mika et Sébastien, l'aventure de la poire géante. C'est un film danois.
Un film d'animation.
D'animation, tout à fait. Donc là, on a un peu les trois programmes.
Je crois qu'on l'a passé au bif.
On a toutes les programmations, en fait. Hein. Là, il y a le gros film Avenger, Foxtrot, le truc, tu sais, Nostradamus, etc. Comme des garçons, la comédie française potache. Razia, du coup, qui est un peu la même programmation que Foxtrot. Et un film d'animation pour les tout-petits. Voilà. Il y a de quoi faire cette semaine.
Tu as fait le tour.
Exactement. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. @cinecastbe sur Cinecast. Sur Twitter, pardon. Facebook.com/cinecastbe sur Facebook. Et à vous abonner sur SoundCloud et iTunes, puisque comme ça, vous restez au courant des épisodes et vous pouvez rester avec nous pour la suite de l'aventure.
Vous pouvez nous suivre sur Instagram aussi.
Sur Instagram, @cinecastbe, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas posté grand-chose là-dessus. On a un tout doux.
On va y remédier.
On va y remédier à très court terme. Et il y a quelque chose qui est vachement excitant. Vous avez été plus de 750 à participer au concours sur Cine News, le concours Cinecast, qui vous permet de remporter des places de cinéma. de votre choix. On fait ça en partenariat avec eux. Donc, allez sur leur site. Il y aura sans doute un concours aussi lié à cet épisode-ci. Comme ça, vous pouvez participer, tenter vos chances de remporter des places de ciné. Merci Ciné News.
Merci.
Merci. Et on se dit à la semaine prochaine, du coup.
Mais écoute, a priori, oui, Guillaume.
A priori, oui. Hein.
On se voit la semaine prochaine.
On se voit la semaine prochaine. Même heure, même endroit.
Ça a l'air bien, le programme de la semaine prochaine, je ne sais pas.
Le programme de la semaine prochaine, je t'avoue que je n'ai aucune. Voilà, je l'ai devant moi maintenant. Cobain.
Pas vu.
Chien.
Ah oui. Continue, ce n'est pas un jugement.
Make to my love.
Ah oui.
Tu l'as vu, celui-là ?
Ben non, j'essaie de le rattraper, mais c'est compliqué.
Abdelatif Kechiche. The Gringo.
Je l'ai vu.
Avec... Ça va bizarre, ça. I Feel Pretty. Amoureux de ma femme. Une saison en France.
Une quoi ?
Une saison en France.
Ah.
Avec Sandrine Bonner.
Oh.
Tad et le secret du roi Midas. Et Blue.
Ouais. Ben, je vais devoir rattraper les films d'ici là, parce que sinon ça va être une semaine assez courte.
C'est ça.
Non, j'en ai vu deux là comme ça.
Okay,
mais bon, je peux peut-être en voir un ou deux d'ici
oui,
là.
Oui, oui, un petit Make to My Love là, 3 heures de cinéma de Kechiche.
Ça va être compliqué.
Ça va être compliqué, hein, ouais. Je suis bien d'accord.
Non, c'est pas ça, mais je... ouais.
Oui.
Chez ce distributeur, ce n'est pas toujours facile d'avoir des liens.
Sans blague.
Voilà.
C'est vrai qu'ils ont peur pour le piratage de ce film qui est ouais. Très demandé. Ça va ?
Soit.
Faisons ça comme ça. On se dit à la semaine prochaine. Des bisous.
Des bisous, au revoir.
Ciao, ciao.